s'appuyer sur les deux chambres grâce aux deux sièges supplémentaires remportés au Sénat par le camp démocrate en Géorgie. Les opérateurs saluent aussi des indicateurs économiques rassurants aux États-Unis, comme la progression de l'indice d'activité dans les services en décembre. Quant aux entreprises à Paris, Atos a plongé de 13%, plombé par des rumeurs d'acquisition de l'américain DXC Technology pour 10 milliards d'euros. Saint-Gobain, en revanche, dont l'activité du dernier trimestre 2020 a dépassé les attentes, a bondi de 6,2%. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Merci, ainsi s'achève le journal. Merci à vous d'avoir écouté.
Radio G vous souhaite une merveilleuse année 2021.
Salut, c'est Anne-Lie de l'Oreille Curieuse. Avec toute l'équipe, je vous souhaite une très belle année, joyeuse et optimiste. Merci d'être à l'écoute et à bientôt sur nos ondes.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
À l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne des découvertes et des actualités culturelles et locales. Je me suis dit, waouh, je suis même en spot juste avant l'émission. Vous m'avez entendu avant même qu'on se retrouve en direct dans le studio. Nous sommes jeudi et nous aurons donc le plaisir de retrouver Benoît et sa chronique Science, Nature et Environnement. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission. Vous entendrez également dans cette oreille curieuse un reportage sur le dispositif du service civique. Ce soir, c'est Neptune FM qui nous emmène à L'Île-Dieu pour nous parler du point information jeunesse et de comment la crise sanitaire actuelle modifie les recrutements de services civiques. En première partie d'émission, on retrouve la suite de l'entretien réalisé avec l'autrice Marion McGuinness. Vous avez entendu le début dans l'émission d'hier. Il y est toujours question de bonheur et ce soir, on passera en mode slow. Derrière le micro, c'est Anne-Lie, seule dans le studio, mais très heureuse d'être à vos côtés pour les 40 prochaines minutes. Et le dicton de ce soir, très imagé, j'espère qu'il vous plaira également, c'est « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Bien entendu, on commence en musique avec un groupe qui nous vient d'Afrique du Sud et plus exactement de Soweto, à côté de Johannesburg. C'est Urban Village, le nom du groupe. Ils vont sortir un album ce mois-ci, on les réentendra sans doute dans cette émission. Et le titre qu'on écoute, c'est Oubaba.
Moya, vous me parlez. mama, wo wongo wo wongo mama. Ima ile ile mama, wo wongo wo wongo mama. Ima ile ile mama, wo wongo wo wongo mama. Wongo 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 wongo. Ta la 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 la. San bonani ni jane
Sina si apilala
San bonani San bonani ni jane
Sina si apilala
San bonani San bonani ni jane
Sina si apilala
San bonani, San bonani, jande.
Sina si apilala,
ah, mulalale, la wo oh eh eh eh.
On s'est posé, on va continuer avec des traditions et cultures d'êtres très concrètes qui feront très certainement écho à l'année écoulée et sans doute aussi à celle qui s'annonce. Des choses pour ralentir. On poursuit nos réflexions sur le bonheur avec Marion McGuinness qui était venue fin 2019 pour nous présenter son livre « Le tour du monde du bonheur » qui est édité chez De Bock Supérieur. Elle nous avait alors parlé de qu'est-ce que ça lui a appris d'écrire ce livre.
Alors moi, en l'écrivant, ça m'a enrichi personnellement. Parce que c'est vrai que ça oblige à sortir un peu de sa zone de confort, de sa petite bulle quotidienne. Bon, même à Angers, première ville de France pour le bien vivre,
etc. Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon, parfois tout n'est pas rose. Et là, du coup, ça met les choses en perspective. Quand on se rend compte que dans certains pays, beaucoup plus pauvres que nous, par exemple, si on se fie au classement annuel sur le bonheur de l'ONU, ils arrivent à être heureux, on se dit quand même. Bon, moi je peux y arriver aussi si je le veux. Et toutes ces recherches, aussi diverses soient-elles, ont vraiment quelque chose en commun et qui est vraiment pour moi. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est une devise, mais c'est quelque chose que j'essaie vraiment de garder en moi et que j'essaie vraiment d'appliquer tous les jours. C'est le bonheur vient de soi. Il vient pas de l'extérieur. Alors ça fait un peu psychologie de comptoir dit comme ça, mais on se rend compte à quel point c'est vrai. Et heureusement que c'est vrai, parce que sinon finalement on serait jamais heureux, parce que on finit par s'habituer à ce qui est à l'extérieur, on finit par s'habituer à quelque chose et on a toujours besoin de plus et plus et plus et plus. Et c'est pas possible. Alors que si on arrive à le trouver en soi, avec l'environnement qui nous est donné et sur lequel on peut souvent pas avoir beaucoup d'influence, et bien à ce moment-là, on a une possibilité de s'épanouir.
On a un peu plus de clés pour atteindre un mieux vivre.
Oui.
C'est pas mal. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je pense vraiment que chacun peut trouver une clé, voilà, pour être heureux, parce que même en France on est tous différents, voilà. Donc je dis en France parce que le livre est en français, mais il paraît aussi en Suisse ou en Belgique ou dans n'importe quel pays où les gens parlent français. On est tous différents Et donc du coup, je pense que certains concepts vont paraître complètement fous à certains et complètement inintéressants à d'autres. Et puis, sur certaines pages, on va dire « Ah, ça, ça me parle. Ça, ça correspond à ma façon de voir les choses. Ah oui, donc, par exemple, j'aime la solitude, je peux être heureux et je peux m'épanouir. » Je peux trouver des choses pour être dans la solitude. Ou au contraire, j'aime être entouré de monde, ou j'aime être déconnecté, j'aime pas être tout le temps sur mon téléphone, alors que c'est la mode ces dernières années. Mais non, c'est possible d'être heureux en se déconnectant. Voilà. On peut vraiment trouver à chaque concept quelque chose qui va nous parler et qui va nous aider à avancer un petit peu sur ce chemin d'épanouissement.
Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-uns des concepts, des idées que vous avez choisi de présenter dans ce livre ? Alors, je vous laisse un peu choisir parmi les 5 continents. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment super en fait pour la curiosité. On découvre plein de choses.
Alors c'est vrai que moi j'ai un petit préféré. J'hésite toujours à en parler à la radio ou ailleurs. Ça me fait passer pour une jeune alcoolique. En général, donc c'est le Kalsari Kani. C'est un concept finlandais. Alors je suis pas sûre de le prononcer exactement correctement. S'il y a des Finlandais qui nous écoutent, ils me pardonneront. Le principe du Kalsari Kani, c'est alors vraiment mot à mot, si on découpe ce mot, ça veut dire être ivre et en caleçon. Donc voilà. Bon, après caleçon, vous prenez le sous-vêtement que vous voulez, hein.
Mais voilà, plutôt relax dans un canapé.
Voilà, c'est ça. En gros, c'est un art de vivre tranquille à la maison, bien étalé sur le canapé devant Netflix avec un paquet d'M&M's ou un truc bien régressif à portée de main.
Et on peut parler de Netflix et de M&M's parce que je crois que c'est quelque chose de très récent comme concept. Ou je dis n'importe quoi.
Netflix and chill, oui, ça date. Alors Netflix, nous en France, ça a déjà une petite dizaine d'années.
Non, mais je pensais que c'était cette idée-là, mais peut-être que j'ai mal lu. Hein. Peut-être que je vous écoute, Mario.
On s'est perdu.
Je suis en train de vous déconcentrer.
Non, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce qu'on est dans une société, en tout cas en France, où il faut toujours faire quelque chose, il faut être occupé, c'est toujours bienvenu d'être le dernier à quitter le bureau, d'être toujours pressé. Tu fais quoi ce week-end? Je vais voir 4 films, 3 expos, j'ai 2 dîners. Enfin, à un moment donné, il faut juste s'arrêter et prendre le temps de vivre et de se ressourcer. Et finalement, le Kalsari Kani, c'est s'autoriser à ne rien faire pour en ressortir finalement plus reposé et mieux dans sa peau. Donc évidemment, c'est pas à faire tous les jours, parce que bon, tous les jours on slip avec un verre de vin, c'est triste. C'est pas très bon signe. Mais voilà, c'est de temps en temps, etc. Et c'est vrai que moi j'ai une affection particulière pour les concepts qui poussent à ralentir, à en faire moins. Aux Pays-Bas, les Néerlandais ont le Niksen. C'est vraiment, ils ont un mot pour dire ne rien faire. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'art de ne rien faire. Et ne rien faire, c'est faire quelque chose, c'est s'autoriser de s'ennuyer et donc de profiter de la vie, de se ressourcer. Et moi moi j'ai 2 enfants à qui d'ailleurs je dis bonjour, Oliver et William, qui vont être tout fous de m'entendre dire leur prénom à la radio. Les enfants aujourd'hui, on les presse aussi, on leur demande tout le temps de se dépêcher, on leur donne 54 activités extrascolaires et on leur laisse pas le temps de s'ennuyer, parce qu'on a toujours l'impression que si on les laisse s'ennuyer, on est des mauvais parents. Alors qu'en fait, non, ça permet de développer l'imaginaire, ça permet de se reposer, etc. Et donc, je me dis que si les adultes se réapproprient l'idée de ralentir et de prendre le temps, il sera peut-être possible de l'autoriser aussi à nos enfants.
Et c'est aussi ces mots ou ces approches, ces concepts qui reconnaissent en fait des façons d'être ou des façons d'agir finalement. On parle de quête du bonheur, mais ça peut aussi juste parler d'état éphémère.
Ah oui, de toute façon, je pense qu'il n'est pas possible d'être tout le temps heureux. Enfin, ça, c'est pas possible. C'est vraiment un état transitoire. C'est comme les émotions, hein. Ça vient, ça passe. Mais effectivement, ce sont des petits moments. Alors, on souhaite d'en avoir le plus possible dans la vie, mais des petits moments où on se sent vraiment bien. C'est une sensation que tout le monde connaît, hein, vraiment. Par exemple, alors, je sais pas, peut-être que vous en aviez noté, aussi, mais en Hongrie, il y a le flow, qui est vraiment, si je devais le traduire, alors c'est un mot anglais, mais c'est hongrois. Comme beaucoup de concepts de psychologie, le mot anglais a été gardé. Mais le flow, c'est... alors c'est vrai que les artistes le connaissent beaucoup, c'est un état de quand on est inspiré, cette sorte d'état de grâce qu'on ressent quand on est inspiré, alors quand on fait la musique, quand on crie, on écrit, quand on peint ou n'importe quoi, mais c'est une sorte de parenthèse dans le temps n'existe plus rien n'existe, on est juste complètement à son œuvre, complètement à ce qu'on fait, et ça nous met dans un état je dis, c'est pas une transe encore, mais c'est presque ça. Alors évidemment, ça ne dure pas, mais c'est un état de bonheur artistique qui est complet.
Où les choses arrivent d'elles-mêmes,
voilà,
un
c'est
peu
ça.
Facilement.
C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, alors c'est vrai que selon les pays, les méthodes pour être heureux sont vraiment différentes. Si on va en Asie, par exemple au Japon, on a des méthodes qui sont plus calme, plus zen, mais ce qui correspond aussi à la manière dont
une culture.
Voilà, tout à fait, dont ils sont. Là-bas, par exemple, le kintsugi, qui est vraiment un art que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un concept psychologique, c'est un art artisanal, c'est manuel. Le kintsugi, c'est l'art de réparer en faisant des jointures à l'or. Donc c'est vraiment un art ancestral au Japon et qui vient à l'origine de Chine, mais c'est devenu vraiment un art au Japon qui consiste à prendre donc toute la vaisselle, tout ce qui est en céramique ou en porcelaine, et si vous le cassez, on ne jette pas ce qui est cassé, on le répare, et on le répare en le rendant encore plus beau, en donc avec une sorte de lac doré. Et c'est vraiment un symbole de résilience. Ça montre vraiment que c'est pas parce que quelque chose est cassé, si vous vous sentez cassé, que forcément il n'y a plus rien de bon et que vous êtes destiné à être malheureux toute votre vie. Non, vous pouvez vous servir de ce que vous avez vécu, de vos souffrances, et de ressortir finalement plus beau, plus grand. Et ça, je trouve, comme philosophie de vie, c'est quelque chose qui pourrait servir à tout le monde tous les jours.
Oui, et qui part d'un objet, enfin, effectivement, ça fait des choses très belles.
Oui, c'est magnifique. Hein, si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet ou n'importe où, il y a parfois des expositions. Les kintsugi, c'est vraiment un art magnifique.
Vous entendiez les mots de Marion McGuinness qui était venue nous parler de son livre Le Tour du Monde du Bonheur. Vous pouvez le consulter, il est toujours disponible chez Dobec Supérieur pour découvrir d'autres visions ou juste de nombreuses visions sur le bonheur. Vous êtes bien sûr toujours sur les ondes de Radio G, le 101.5 FM à Angers, et à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne de l'antenne. On va maintenant retrouver un reportage dédié au dispositif du service civique. Il est réalisé en partenariat avec les autres radios associatives des Pays de la Loire, grâce à la FRAP, notre fédération.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Louison Loprette est volontaire en service civique au point information jeunesse à la mairie de Lisieux depuis le lundi 2 novembre 2020. La demande d'agrément au service civique n'a pas été si simple à obtenir et du fait de la Covid-19, il y a eu peu de postulants et la mission a été retardée. Rosane Bernard, responsable du point information jeunesse à la mairie de Lisieux.
Alors je dirais pas forcément simple parce que c'est un gros dossier à monter. On passe par une plateforme du service civique au niveau national qui est pas facile à manier. Et puis après, il faut vraiment bien être clair dans notre offre de service civique. Donc ça a été un grand travail. Alors nous avons eu 4 candidatures, dont 2 jeunes basés sur Lisieux. Initialement, ça devait être au mois d'avril. Donc déjà, ça a été repoussé. Donc on a perdu en fait 6 mois et on n'a pu que recruter qu'un service civique sur 6 mois.
Ayant un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale, Louison Loprette a pour mission d'interroger les jeunes de Lisieux pour connaître leurs besoins.
Principalement, c'est d'interroger les jeunes sur leurs besoins, leurs attentes en matière d'information. Au vu du confinement, on travaille principalement sur un outil d'enquête qui sera disponible sur Internet. Les missions vont évoluer puisque je vais pouvoir aller directement à la rencontre des jeunes et développer notre présence sur les réseaux sociaux et mettre en avant les services du PIGE, notamment sur Facebook et Instagram, qui vont permettre d'être redynamisés. Le fait que tout se mette en place petit à petit et que je rencontre de plus en plus les partenaires, je pense que le travail va être de mieux en mieux appréhendé au fur et à mesure que le temps va passer et j'espère que tout va se passer au mieux dans le déroulement global de cette mission.
Louison, tu es originaire de Bretagne. Pourquoi avoir postulé pour cette mission de service civique sur Lisieux ?
Ayant fait des études dans le secteur du social, j'ai pu être amenée à travailler avec différents publics, mais jamais uniquement le public jeune. Et puis, ça me permettait aussi de connaître un petit peu mieux le tissu social et pouvoir par la suite l'exploiter dans mon futur professionnel.
Pour Louison Leprêtre, cette mission de 6 mois du 2 novembre 2020 au 1er mai 2021 a un but bien précis.
Mon but, c'est de rester sur le territoire de l'Île-Dieu. Donc, avoir de nouvelles compétences pourrait me permettre de postuler, pourquoi pas, dans le secteur du social sur le territoire prochainement.
Pour le point information jeunesse de la mairie de l'Île-Dieu, cette mission a également un but bien précis.
Nous souhaitons implanter le point information jeunesse à l'arrière-port, en fait, avoir un local. Donc, c'est toute une préparation de partir des besoins, des attentes des jeunes pour pouvoir vraiment leur présenter un local à leur image avec des informations utiles pour leur avenir professionnel et personnel. Vraiment, ça va de la santé à la formation professionnelle, la formation adulte aussi, la vie quotidienne, le budget. En fait, c'est tout un accompagnement, c'est l'accompagnement de projet exactement, enfin, toutes sortes de choses. Ben, si tout va bien et s'il n'y a pas de confinement sur reconfinement, on espère au printemps.
Au printemps 2021, pour être clair.
Oui, tout à fait.
Louison Leprêtre est la première volontaire en service civique à la mairie de Île-Dieu. L'agrément est en cours durant 3 ans. De nouvelles missions seront proposées dans les prochaines semaines selon l'évolution de la Covid-19. Laurent, Neptune FM, l'Île-Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
See these bonds are like COVID. We get them right off the bat. Back to bazaars and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Still stacking my chips, hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the empire state building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile 8 million dead little juveniles. Wait, children. I'll await my trial. They tilting. But then ain't nothing you say could ever trump.
Nah.
Mike Pence will get killed.
Yeah.
If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill.
Yeah.
I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed.
Yeah.
And I'm still rider, die for the squad.
Yeah.
So you know which side that I'm on. If a battle line's ever drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. A mic in the palms like claws, like a swing right for your jaw. And rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or
nah?
If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID.
You
get them right off the bat.
Back
to bazaars and Corona.
Like
you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. And DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs, so that no one gets even close to this to pose a risk to me so vocalistically. That's social distancing.
Yeah.
Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14-day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene. Like me, metaphorically.
Damn.
Cause them stay-at-home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn. Like Monroe, Norma Jean. Still got that heroin. Lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope.
Dope.
And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed.
Nope.
For some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine. Cause I got that.
Yeah.
The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair.
Whoa.
I got a contact like eyewear.
Whoa,
wait a minute, bitch, let me lie here. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Like, now my name rings out like a sponge mop. My drip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. And I'm still totally inappropriate with an opiate groping it while I'm holding it like a troll.
Covium, hoping a little codeine will give me OD and whoa, everything is slow, I begin to floating, I know that I'm getting loaded, the pin exploded, Hiroshima with the flows of utopia, with the dope, I'm an OG, I'm like the goat here to get your goat, little bit of sodium, it's the salt when I'm at the podium, bitch, I throw holy camolium, in the zone with the shit I'm on, get emodium in a commode, because nobody's even close, your petroleum to plutonium, you're a phony, I'm at the crib, but your hoe, gotta rip the pole like voting, but no clothing, stripped down to a toe ring, and here we go with the gloating, I got my nose in the air like a Boeing, then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a galana, pin a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman, and bitter, then I shot her in a liver, delivered it to the bottom of the river, but I'm probably gonna jump in the water with her with a water money, cause I got a lot of it, and when it come to dripping, I be stopping like 100 miles an hour, never running out of either one of them, I gotta get it, cause these bars are like COVID, get them right off the bat, infected with SARS and Corona, like you took a bite off of that, and it goes from Martian to human, that's how the virus attacks, they come at me with machine guns, it's like trying to fight off a gnat.
Juste avant ce générique mythique dans l'histoire de notre émission, j'en rajoute un peu parce que c'est la première chronique de l'année, on était avec Eminem, un titre qui s'appelle Gnat, que j'aime beaucoup et qui fait référence à ce cher SARS-CoV-2 alias le Covid. Mais maintenant c'est Benoît, salut Benoît.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Je suis ravie de te retrouver pour parler science, nature et environnement.
Eh ben c'est parti, 2021, on est là. Alors ce soir on va pas parler de virus, Covid et autres.
C'est très bien.
On va parler de bactéries. C'est pas...
Ah mais c'est très intéressant, moi j'ai hâte.
Tu vois, de bactéries, on va peut-être parler aussi de serpents.
Mm-hmm.
Et puis surtout un peu plus longuement de prédateurs. Ça va ?
Parfait sommaire.
Ouais, un petit sommaire. Alors évidemment, toujours pas d'agenda pour les raisons qu'on sait, je le répète à chaque fois. Et voilà, bon, on va peut-être avoir des bonnes surprises ce soir. Apparemment, il y a des annonces qui vont être faites.
Oui, bon, en ce moment.
Soyons optimistes. Je dis ça en faisant un peu la tronche parce que voilà, bon. On va pas en rajouter pour nos auditeurs. Quelques infos. Alors, on entend parler depuis quand même pas mal de temps et de la composition de notre corps. En fait, nous ne sommes pas seuls, hein, tu sais bien.
Oui, on est nombreux là-dedans.
On est très nombreux. On est très nombreux puisqu'il y a, dans un individu, être humain, il y a plus, voire autant d'étrangers que de...
Que de moi.
De propre composition que de nous. Voilà, c'est ça. Et je veux bien sûr parler de tout ce qu'on appelle maintenant communément le microbiote. Donc l'ensemble des organismes qui vivent sur nous, dans nos sourcils, dans nos intestins, partout en fait. Nous sommes habités.
Et c'est pas grave, c'est très bien. Faut pas
mais
aller rentrer et se laver tout de suite.
Évidemment. Heureusement, il y a un équilibre qui existe entre ce qu'on appelle la flore intestinale et tous les micro-organismes qui nous peuplent et nous habitent. Et en général, ils nous protègent. Évidemment, quand il y a des déséquilibres, ça peut créer des problèmes. Mais... Alors là, ce qui est tout à fait... Je vais vous faire part d'une découverte assez intéressante qui a été faite à partir d'une bactérie, alors elle, du coup, qui vit dans le microbiote cutané sur notre peau, et plus précisément à la base des poils. Alors, c'est une bactérie qui aurait la capacité à sécréter un antibiotique qui serait efficace contre les staphylocoques, notamment les staphylocoques qui font des ravages dans le milieu hospitalier, par exemple les staphylocoques dorés,
ouais.
Et qui sont devenus maintenant, pour beaucoup de souches, résistants aux antibiotiques classiques qu'on utilise.
Ouais.
Alors... Donc ça a été découvert dans cette peau. Des chercheurs sont intéressés au génome, alors du coup d'un staphylocoque qui habite sur nous, alors, qui est pas du tout pathogène, et qui fabrique donc c'est une bactérie qui fabrique, dont certains gènes peuvent permettre la fabrication entre guillemets d'un antibiotique donc c'est tout à fait intéressant. Ils ont isolé et purifié la molécule en question et donc qui s'appelle cutomycine parce qu'en fait la bactérie s'appelle Cutibacterium acnes.
C'est très mignon.
C'est mignon, hein. Mais c'est comme ça qu'elle est connue et reconnue. Alors, libre à ceux qui veulent lui donner un petit nom sympa. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ils ont testé cette molécule, la cutomycine, sur différentes souches bactériennes. Et miracle, en fait, ils sont aperçus qu'elle inhibait le développement de plusieurs espèces de staphylocoques, dont, comme je le disais tout à l'heure, le staphylocoque doré, qui est une bactérie qui résiste à certains antibiotiques employés pour soigner les gens atteints, ouais. En fait. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une nouvelle... un nouveau mode de traitement de l'infection au staphylocoque doré. Donc c'est vraiment un espoir intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attrapent cette entre guillemets cochonnerie alors qu'ils sont en train de se faire soigner à l'hôpital, et donc ça peut entraîner des infections, des septicémies, et bon,
des choses
voilà,
assez graves. Ouais.
C'est assez grave, donc c'est intéressant. Alors ça prouve qu'on aura des ressources entre guillemets de trouver ou de découvrir des nouvelles molécules bactéricides, hein, des nouveaux antibiotiques aussi dans la flore, dans la
tout sur nous en fait.
Exactement,
c'est
et dans les microbiotes d'aussi plein d'organismes. Donc il faut garder espoir. Alors, de l'espoir, il en faudra aussi pour nos amis indiens. Qui vivent en Inde, puisqu'il y a une étude assez récente qui fait part de statistiques assez effrayantes sur les morsures de serpents en Inde.
Ouais.
Alors, tiens-toi bien, les morsures de serpents coûtent chaque année aux citoyens indiens donc l'équivalent de 3 millions d'années de santé et de productivité. C'est un savant calcul. Alors derrière ce chiffre un peu faramineux, on trouve des statistiques sur les morsures de serpents. Alors des statistiques qui sont bien sûr pour un pays aussi grand difficiles à obtenir, d'autant plus que toutes les morsures de serpents, ne sont pas mortelles, deux arrivent aussi dans des zones très reculées et ne sont pas forcément répertoriées. Donc en fait, on sous-estime globalement. La quantité de gens mordus par les serpents en Inde. Cependant, il y a des chiffres assez effrayants sur le nombre de victimes. Alors, il faut savoir que les morsures de serpents sont reconnues par l'OMS et classées comme maladie tropicale, mais hélas, une maladie tropicale négligée. Il y a très peu d'études à leur sujet. Les raisons sont multiples. C'est une maladie qui touche les populations pauvres. Principalement des agriculteurs dans les zones rurales, et donc ça intéresse finalement peu de monde. Alors c'est des zones où évidemment l'accès aux centres de soins est difficile, parfois à plusieurs heures de route, de chemin. Quand on arrive, les sérums anti-venin,
ouais.
Quand il y en a, ils sont pas toujours bien conservés, enfin c'est très compliqué. Donc les morsures font des ravages. Il faut savoir qu'il y a 300 espèces de serpents en Inde qui sont présentes. 20% d'entre elles sont des espèces venimeuses, donc très très dangereuses pour l'homme. Alors voilà, avec toutes ces complications, c'est un véritable fléau dans ce pays. Donc on estime à entre pour le nombre de décès par morsure de serpent. Rien qu'en Inde, ça serait entre 11 000 à 50 000 personnes par an. Alors évidemment, certes, c'est un pays de plus d'un milliard d'habitants. Ça représente une bonne partie des décès dans le monde pour cette cause-là. Donc c'est un sujet dont l'OMS va se préoccuper. Évidemment, nous, c'est des sujets qui nous paraissent un peu exotiques, puisque voilà, et certes, il y a quelques vipères en France. Je sais pas, j'ai pas cherché le nombre de cas de morsures par des vipères. En tout cas, on est un pays où si on se fait mordre, on peut très vite être soigné, oui. À moins de se retrouver perdu en pleine montagne et puis dans des conditions particulières, ce qui reste exceptionnel. Mais il faut savoir que dans beaucoup de pays, il y a des choses qui peuvent se passer avec la faune sauvage.
Et puis c'est intéressant de voir aussi comment se croisent les questions sociales, de santé.
Tout à fait, oui, parce que globalement, en fait, le terrain, c'est toujours le même. C'est les populations les plus pauvres, en tout cas les plus démunies au plan économique, qui sont les plus fragiles et donc qui subissent en fait ce genre de choses, même si on pourrait croire que finalement c'est quelque chose de naturel et qu'on est égaux, tous égaux face à des risques naturels. Eh bien non, c'est pas le cas. Donc voilà pour cette info. On continue maintenant avec alors là une étude aussi intéressante dont on va parler de prédateurs, d'espèces introduites, de colonisation. Une étude publiée par des chercheurs chiliens. Dans la revue Diversity, donc c'est une étude qui est sortie en 2020, c'est assez récent, s'est penchée sur la question des principaux prédateurs en Chili, alors et leur devenir. Donc l'étude vise à étudier le comportement de deux prédateurs de ce pays qui sont le puma, donc un gros félin, hein, et le renard. Il s'avère que ces deux animaux ont une histoire ancienne, hein, sur le territoire, et il s'est passé quelque chose. Au 15e siècle, hein, en Amérique,
ouais.
Il y a des gens qui sont arrivés. Évidemment, ces gens-là ne sont pas arrivés tout seuls. Ouais. Alors, tout a été un peu chamboulé depuis un peu plus de 500 ans. Mm. Et au final, aujourd'hui, il y a tout un mouvement de gens, une mouvance, on va dire, qui voudrait en fait restaurer les écosystèmes tels qu'ils étaient avant l'arrivée de l'homme. Et cette étude est tout à fait intéressante puisqu'elle nous montre que c'est pas si simple. Et que si aujourd'hui on décide d'enlever les bovins, les chevaux qu'on a amenés, les lapins, les lièvres, on va peut-être faire le contraire de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on va faire disparaître des animaux finalement sauvages, endémiques, du milieu, qui se sont adaptés, eux, aux introductions d'espèces et qu'on risquerait vraiment de menacer.
Alors, et de refaire un redéséquilibre.
C'est ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, ils se sont intéressés, comme je le disais, aux renards et aux pumas. Alors, il s'avère que ces deux animaux partagent à peu près quasiment les mêmes proies et les mêmes moments de chasse, les mêmes territoires. Donc, sur un terrain de assez grand, dans une réserve, ils ont disposé un certain nombre de caméras, plusieurs centaines de caméras, une centaine de caméras sur un terrain de 30 000 hectares, pour étudier le comportement de ces deux prédateurs. Alors, classiquement, avant les colons, avant les conquistadors, ces animaux avaient pour proie principale, alors pour le puma, les guanacos, donc c'est proche des lamas, vigognes, enfin c'est la famille des chameaux, hein, des dromadaires, okay. Les camélidés. Donc ils avaient ces proies-là à disposition. Alors une bête, ça fait en moyenne 200 kilos, hein, donc voilà, c'était comme ça. Alors que les renards de Magellan, le renard est un animal plus petit, hein, bah, lui, il portait son attention plutôt sur des rongeurs de ce continent, et aussi des viscaches. Alors c'est une sorte de petite la famille des chinchillas. Donc voilà,
un ça, petit rongeur très mignon.
Exactement. Donc ça, c'était les proies des renards. Après, les conquistadors sont arrivés, les Espagnols puis les Européens, hein, et donc ils ont emmené avec eux toute une faune nouvelle. Alors en partie des animaux domestiques, et aussi des animaux sauvages. Qui ont pu traverser l'Atlantique sur les bateaux. Et donc parmi les animaux domestiques, il y a aussi des animaux qui sont retournés à l'état sauvage, notamment lapins, lièvres, etc. Et puis parfois des équidés, donc des chevaux, des ânes, des moutons, etc. Donc ces animaux sont évidemment tout de suite rentrés dans le régime alimentaire des prédateurs qui étaient présents. Ça s'est réadapté. Alors il faut savoir aussi que les colons, depuis longtemps, eux, ils ont chassé beaucoup. Ouais. Et donc, les proies naturelles des prédateurs ont disparu. Hein, les guanacos dont je parlais, ouais. La viscache pour la fourrure, etc.
Ça n'existe plus.
Ça a quasiment disparu. Et donc, mais ça n'a pas empêché les pumas et les renards de continuer leur bonhomme de chemin en reportant leur prédation sur les nouvelles proies. Alors aujourd'hui, tu vois bien que les gens qui veulent réhabiliter, soi-disant, un écosystème un peu idyllique, précolombien, etc., eh bien, ces gens, globalement, se trompent, puisqu'en faisant ça, ils vont faire disparaître des proies qui sont aujourd'hui devenues essentielles aux prédateurs. Ils vont rompre des chaînes alimentaires et provoquer évidemment de gros problèmes de survie pour ces animaux. Alors, il faut, alors évidemment, chaque cas est unique, hein, dans ce genre de choses, les espèces introduites, les espèces qu'on invasives, les espèces qu'on souhaite réintroduire à des endroits parce qu'elles en ont disparu. C'est assez compliqué, mais il faut vraiment être méfiant, en tout cas très vigilant par rapport à cet esprit. Alors l'article est intéressant, il parle de purification animale. Attention, c'est la décolonisation animale. C'est vraiment quelque chose de particulier, et en tout cas il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met le doigt là-dedans, on va rompre des équilibres.
Ouais, je me dis que c'est intéressant, mais effectivement ça doit pas être si simple.
C'est très compliqué. Ouais. Alors ce qu'il faut, alors la conclusion elle est aussi tout à fait intéressante. Pour gérer notre environnement, alors déjà le gérer compliqué, il y a des gens qui prônent la non-gestion de tout mais pour s'occuper des populations animales sauvages, on devrait plutôt adopter le principe d'une vigilance indifférente. Voilà, on regarde, on observe, on fait attention, mais on n'intervient pas. Donc, il faudra un non-interventionnisme. Et puis aussi, bien sûr, interdire ce qui est... Alors, c'est compliqué aussi, mais interdire toute interaction avec cette faune sauvage, notamment la chasse, par exemple, qui perturbe inévitablement les équilibres biologiques dans la nature. Donc, si vous voulez voir cette étude... Elle est disponible sur Internet, donc si vous tapez puma, renard, Bolivie...
Décolonisation animale, ça marche, peut-être.
Peut-être aussi, enfin, c'est des mots-clés qui vont vous amener plein d'informations. Mmh. Évidemment, il faut trier, mais en tout cas, ça pointe le... C'est pas si simple que ça de se dire, on va éliminer ce qu'on a apporté il y a 200 ans ou plus,
et puis retrouver
quelque chose d'idéal et tout. Non, c'est beaucoup plus complexe.
Ouais, et puis tout bouge même sans les humains, particulièrement avec les humains quand même.
Oui, quand même.
Il faut qu'on prenne cette responsabilité.
Exactement.
Waouh. D'autres nouvelles?
Pour ce soir, c'était les infos que je souhaitais partager.
Et les petits animaux qui étaient les proies des pumas et des renards, on n'a pas de nouvelles? Eux, ils sont encore vivants ou pas?
Ah, bien sûr, ils existent toujours, mais ils sont rares. Les guanacos, c'est fortement menacé. Les viscaches aussi, c'est pas évident. Alors, par contre, les lapins, les lièvres, évidemment, ça manque pas. On sait les ravages que peuvent causer ces animaux quand on les introduit sur des territoires. Ouais. Je te rappelle le problème de l'Australie avec les lapins. Voilà.
Bon, d'autres choses dont tu nous parleras prochainement.
Moi, j'en ai déjà parlé, mais il y a des choses qu'on peut redire.
Bah merci beaucoup en tout cas Benoît. La prochaine chronique ce sera dans 2 semaines. Merci à vous qui avez écouté cette émission. On finit presque pas en retard. L'émission est en podcast sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. Nous on se retrouvera lundi à 18h10. D'ici là vous pouvez nous contacter via le site de Radio G ou nos pages de réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. À 19h vous allez retrouver droit devant, mais tout de suite c'est la programmation musicale de Radio G avec un titre qui s'appelle L'autoroute de Fred Neufsch.
On se fait des promesses qu'on ne tiendra jamais, mais on croit à l'ivresse qu'elles viennent de nous procurer. Fraîche, l'humidité. Dans mon dos, le pare-brise fait le bruit tout mouillé d'un vélo qui freine en descente. Il est minuit 49. Ce n'est déjà plus des caresses entre nous sur cette terre banale. On ne voit que du ciel, des étoiles et même des algues. C'est la zone, l'addiction, le fétiche suprême, l'insolence de nos dards qui s'hérissent. Juste, c'est fort. Par les feux d'un camion qui déboule. On est pris par surprise, on est nu sur la Fiat, on n'a pas le réflexe, on se serre à la taille, on panique. Net, à 2 mètres de nous, là, le camion s'arrête et nous fixe. Marre.
wanted freedom. They gave us money, a fast ticket to a place where we thought we ought to be. They came as friendly as pure delight, a silver fantasy. We gave our opium for crack, ice pills and GHB. Trade our past for a fragmented future reality. We said we could cut right through all and read it easily. A sense of power so close to what they call divinity. A fast ticket to a place where we knew we ought to be.
www.radio-g.fr